Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Bénissez le Seigneur, vous tous, ses anges, héros puissants, qui exécutez sa parole, dociles à la voix de ses commandements. Mes très chers frères, aujourd'hui, l'Église nous fait fêter Saint-Michel-Archange. C'est la fête de la dédicace de Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange est le chef de la milice céleste. C'est lui qui est le lieutenant du Seigneur Sabaoth, c'est-à-dire du Seigneur des armées célestes, c'est-à-dire les armées des anges. C'est à lui que viennent les âmes des fidèles défunts pour être conduites, comme dit la liturgie, dans la lumière céleste. C'est lui qui les introduit dans la lumière céleste et c'est lui qui, au commencement, a triomphé de Lucifer, nous allons en parler, qui a triomphé de Lucifer et qui l'a précipité du ciel sur la terre où il a pris le nom de Satan, c'est-à-dire l'ennemi. Nous avons plusieurs choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit, mes très chers frères. Nous avons à voir tout d'abord quel est le fondement de la force des bons anges. Et c'est pour cela que nous serons amenés à donner quelques explications sur le nom de Saint-Michel, Saint-Michaël, Archange. Ensuite, nous avons à voir comment imiter les bons anges par leur charité et comment elle se traduit dans la vie chrétienne, spécialement en imitation des bons anges. Et enfin, nous verrons la clé du mystère angélique sans laquelle nul ne peut accéder au royaume de Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Bénissez le Seigneur, vous tous, ses anges, héros puissants, qui exécutez sa parole, dociles à la voix de ses commandements. Mes très chers frères, ce texte est à la fois le texte de l'introïte et le texte du graduel. C'est dire si les anges ont une place spéciale dans le monde que Dieu a créé. Et ce n'est pas pour rien que de nombreux docteurs ont parlé de la nature angélique, ont parlé de son excellence, de son éminence et de sa supériorité sur la nature humaine. Il y aurait bien des choses à dire sur la nature angélique et nous ne ferons que passer parce que nous avons d'autres choses à voir. Mais il est vrai que certains auteurs nous font remarquer que tout ce qu'un ange a, l'homme l'a aussi. Tout ce qui peut être dit de l'ange peut être dit de l'âme humaine, en réalité. Sauf que l'ange a tout d'une façon surexcellente et plus parfaite que l'âme. Il y a bien des choses à dire, et vous les trouverez sans doute dans d'excellents ouvrages. Nous aurons plutôt à voir aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, plusieurs qualités des anges qui sont imitables par nous. Je pense spécialement aux trois qualités qui caractérisent les bons anges, l'humilité, la charité et l'obéissance. Quand Dieu a créé les anges, mes très chers frères, Lucifer était leur chef. C'était le plus beau, il était l'image de Dieu, il était paré de toutes les perfections. À tel point que, contrairement à ce qu'on entend, disons, souvent de la part de gens qui sont finalement plutôt mal informés, Lucifer n'est pas un nom maléfique, ce n'est même pas le nom d'un ange, c'est le nom du Christ. C'est pour cela que certains complotistes se sont cru récemment trouvés dans le chant de l'Exultète, par exemple de la liturgie catholique, où on parle de Lucifer qui se lève, etc. On cru voir des invocations à Lucifer, etc. Je vous en prie, mes très chers frères. Saint Pierre, dans une de ses épîtres, dit « jusqu'à ce que Lucifer se soit levé dans vos cœurs ». Alors, est-il sataniste, Saint-Pierre, sataniste? Non, pas du tout. Lucifer, en réalité, c'est celui qui porte la lumière, celui qui nous apporte la lumière de Dieu, ce n'est autre que le Christ. Évidemment, il n'est pas de bon ton d'appeler notre Seigneur Jésus Lucifer, évidemment. Néanmoins, la liturgie le fait, et donc nous ne devons pas donner ce nom à Satan, que Dieu nous garde de lui, et surtout pas à Satan tel qu'il est actuellement. Il n'a même plus de nom propre, s'il n'en a jamais eu. Il a le nom de l'ennemi. En hébreu, Satan signifie l'ennemi, l'ennemi par excellence, l'ennemi de Dieu, mais spécialement l'ennemi des hommes. Donc, vous voyez, mes très chers frères, Lucifer était le plus beau des anges, et cela est décrit, et c'est bien décrit par le prophète, oui, qui le montre paré de toutes sortes de pierres précieuses, toutes sortes de beautés, qui sont des choses qui, par comparaison, qui peuvent nous faire comprendre la beauté de ce chef des anges, de ce premier des anges. Il était le plus beau, il était tellement beau qu'il était revêtu même d'un des noms du Verbe de Dieu. Il était celui qui véritablement était le lieutenant de Dieu, celui qui portait la lumière, pas la fausse lumière, mais la vraie lumière qui lui, dans le monde, qui éclaire tout homme venant dans le monde. C'était à lui que revenait, qu'avait été donné par Dieu, la principauté des anges et la plus grande perfection. Et nous savons, mes très chers frères, car la théologie nous le dit, que lorsque Lucifer a regardé à lui-même lorsqu'il venait d'être créé, lorsqu'il a regardé sur lui, et qu'il s'est vu revêtu d'une telle beauté, quand il a posé sur lui-même ce regard d'admiration qui a fait qu'il s'est en quelque sorte égalé à Dieu, il a chuté. Et il a tout perdu, à commencer par son nom, il a tout perdu, il a perdu son nom, il a perdu sa place dans le ciel, il a perdu sa beauté, évidemment, il a perdu toutes ses perfections. La seule chose qu'il ait gardée, le seul bien qu'il ait gardé, c'est saint Thomas qui nous le dit, il a gardé sa nature angélique, sa nature de créature angélique. C'est le seul bien qui se trouve en lui, puisque c'est Dieu qui l'a créé, il le tient de Dieu. Néanmoins, c'est une nature angélique déchue, contrairement à la nature angélique confirmée dans la bonté, confirmée dans la béatitude. C'est le plus malheureux des hommes, le plus malheureux des hommes, c'est le plus malheureux des anges, c'est la plus malheureuse des créatures. Néanmoins, c'est la plus méchante aussi. Il ne faudrait pas, comme l'ont fait certains, s'apitoyer sur le malheur de Satan. Satan a choisi son destin. Il a choisi son destin, Lucifer a choisi son destin, il est devenu Satan, et il est devenu aussi laid et aussi pitoyable qu'il est, et aussi méchant qu'il était beau, qu'il était glorieux et qu'il était bon. Nous savons que les bons anges, les anges qui devaient, que nous définissons aujourd'hui comme bons, n'ont pas suivi Lucifer dans sa chute. Ils ne l'ont pas suivi, et contrairement à d'autres qui l'ont suivi. Mystérieusement, ils ont suivi ce chef des anges dans sa révolte contre Dieu, et c'est eux qu'on appelle aujourd'hui les démons. Ils sont laids, ils sont grotesques, que Dieu nous garde d'eux, ils sont méchants, ils sont jaloux des chrétiens, ils sont jaloux des hommes. En général, ils désirent la perte des hommes, car étant donné qu'ils sont condamnés à l'enfer, ils désirent emmener avec eux autant de créatures humaines en enfer qu'ils le peuvent. Voilà l'origine de ces deux catégories d'anges que l'Église dont l'Église nous impose l'Église nous impose de croire l'existence, les bons anges, qui maintenant ne peuvent plus chuter, et qui sont ceux qu'on appelle, à proprement parler, les anges, les bons anges, et il y a les mauvais anges, qu'on appelle les démons, et qui sont des créatures méchantes, mauvaises, malfaisantes, et qui ont été précipitées du haut du ciel, sur la terre et dans les enfers, et contre lesquelles, eh bien, les bons anges nous protègent. Voici ce que dit saint Grégoire, pape, à propos des anges et des démons. Comme la source du bonheur des anges, et des bons anges donc, est d'être demeuré attaché à Dieu, la source du malheur des démons est de s'être séparés de Dieu pour se tourner vers eux-mêmes, et ce vice est ce que l'on appelle l'orgueil. Nous voyons, ce sont des paroles fondamentales de ce quatrième docteur de l'Église, des docteurs de l'Église des fondamentaux, saint Grégoire Pape, ce sont des paroles très intéressantes, très importantes, que nous devons bien comprendre. Je les répète. Comme la source du bonheur des anges est d'être demeuré attaché à Dieu, la source du malheur des démons est de s'être séparé de Dieu pour se tourner vers eux-mêmes. Et ce vice est ce que l'on appelle l'orgueil. Nous pourrions étudier en profondeur, il nous faut, dans un sermon, nous devons balayer rapidement les choses, mais nous pourrions étudier en profondeur le parallélisme qu'il y a dans cette citation. Les bons anges sont demeurés attachés à Dieu et c'est la source de leur bonheur. Les mauvais anges se sont tournés vers eux-mêmes et c'est la source de leur malheur. Et ce vice, dit saint Grégoire, le fait de se tourner vers soi-même, c'est ce que l'on appelle l'orgueil. Et ce n'est pas un vice spécifiquement angélique, c'est un vice qui peut être aussi humain. Je crois que je ne vous apprends rien, mes très chers frères. Si les mauvais anges, si les démons se sont tournés vers eux-mêmes, les bons anges, et c'est à cela qu'ils doivent leur béatitude, se sont donc tenus tournés vers Dieu, c'est-à-dire détournés d'eux-mêmes. Les bons anges ont donc fait quelque chose, ont donc fait négativement quelque chose par rapport à eux-mêmes, que les mauvais anges n'ont pas fait, ou plutôt que les démons n'ont pas fait. Les démons se sont regardés eux-mêmes, mes très chers frères. Et quoi de plus naturel que de se regarder soi-même ? Vous voyez, quand vous allez quand des gens vont dans un magasin, ils essayent un nouveau vêtement, et qu'est-ce qu'ils font ? Spontanément, ils se regardent dans un miroir pour voir si ça leur va bien. C'est naturel. Il n'en est pas de même dans la vie spirituelle. Lorsque l'on est revêtu de la grâce, pour nous les hommes, pauvres enfants d'Ève, pécheurs, lorsque l'on est créé, magnifique, parfait, comme étaient les anges au moment de leur création. Les anges n'avaient pas d'autre miroir, si j'ose prendre la comparaison, pour se contempler que Dieu-même. Et le problème de Lucifer, c'est que, au lieu de se regarder lui-même en Dieu, donc en réalité, techniquement parlant, de ne pas se regarder lui-même, mais de se regarder lui-même en Dieu, il a détourné son regard de Dieu et il s'est regardé lui-même. Et, dit Saint Grégoire, c'est là la source de leur malheur, de son malheur. Et cette source du malheur est appelée l'orgueil. Et c'est pour cela que Saint Michel Archange, qui a été celui qui a été le chef des bons anges, et c'est pour cela que dans l'Apocalypse, Saint Jean le voit qui triomphe du dragon et qui combat contre les puissances démoniaques et qui triomphe d'elles, Saint Michel Archange est en cela revêtu typiquement des attributs de la sainteté, contrairement à Satan, ex-Lucifer. Satan, qu'est-ce qui le caractérise, je le répète, c'est le fait de s'être regardé lui-même. Qu'est-ce qui caractérise donc Saint-Michel ? C'est qu'il ne s'est pas regardé lui-même. En cela, Saint-Michel ressemble à l'Immaculée Conception, la Très Sainte Vierge Marie, dans le sens où nous l'avons expliqué un peu plus tôt cette année, en ce qu'il est entièrement dépris de lui-même. Vous vous souvenez ce que nous disions à propos à la louange de la Très Sainte Vierge Marie ? La Très Sainte Vierge Marie est appelée en quelque sorte divine, si l'on peut dire, parce que elle est totalement déprise d'elle-même et totalement en Dieu. C'est pour cela que de la Sainte Vierge, comme dit Saint Alphonse, on ne dit jamais assez dans la mesure où elle ne dit rien d'elle-même, où elle est totalement détournée d'elle-même. Eh bien, à un autre degré, bien sûr moindre, certes, mais très éminent, Saint Michel Archange ressemble par cette caractéristique à la Très Sainte Vierge Marie, et tous les saints doivent s'efforcer de leur ressembler, dans le sens où il est entièrement dépris de lui-même, et c'est là la source de son bonheur. Son nom même indique sa perfection spirituelle. Et c'est pour cela que Saint Michel Archange n'est pas simplement, comme l'était Lucifer, un des plus grands et des plus beaux anges que Dieu ait créé, mais c'est aussi, maintenant qu'il a montré sa fidélité à Dieu, en quelque sorte une sorte de modèle et d'archétype de la sainteté. Saint Michel, en hébreu Michael, signifie « qui est comme Dieu ». Michael est constitué de trois mots hébreux qui signifient « qui est comme Dieu ». Ce nom atteste à la fois sa fidélité, son humilité, nous disent les auteurs, et sa force. Prenons très rapidement les trois éléments du nom de Michael. Tout d'abord, donc, Michael, mi, qui. Quis ut Deus, en latin, qui. Qui est comme Dieu. Vous voyez, mes très chers frères, il y a un grand enseignement dans le nom de Saint Michel, de Saint Michael, c'est qu'il pose la question, qui suis-je, sinon la créature de Dieu, faite pour Dieu et non pas pour moi-même. Le premier élément de son nom est une indication qu'il est sans nom, sinon une interrogation qui nie que Dieu est un égal, comme lui. Qui est comme Dieu ? Imaginez quelqu'un qui s'appellerait qui. Vous voyez, on pourrait en faire des jeux de mots. La seule chose, c'est que pour, dans le domaine spirituel, Saint-Michel, Michael, le premier élément de son nom, c'est l'affirmation que seul Dieu est celui dont le nom doit être glorifié. Ça n'empêche que Saint-Michel a pour nom Michel, Michael, et que nous-mêmes nous avons des noms. Ce n'est pas le fait d'avoir un nom qui nous met directement en dehors de la spiritualité. Mais le nom de Saint-Michael nous montre qu'en réalité, l'homme, ou plutôt l'ange, l'homme et l'ange, enfin la créature susceptible de recevoir la grâce de Dieu, ne porte un nom que dans la mesure, ne porte un nom propre que dans la mesure où ce nom n'est autre que le nom de Dieu. Regardez, nous-mêmes nous portons un nom commun. Nous avons des prénoms et des noms de famille différents, et pourtant nous avons tous un nom commun qui montre que nous sommes de la même famille. C'est le nom de chrétien. Et le nom de chrétien est dérivé du nom du Christ, le Messie, le Fils de Dieu, de telle sorte que si nous nous caractérisons par le nom de chrétien, et que nous vivons en accord avec la dignité de ce nom, il se trouve que nous portons un nom qui nous caractérise, et pourtant c'est le nom du Christ lui-même. Ainsi est Saint Michael. Qui est comme Dieu? Qui suis-je sinon une créature faite pour Dieu et non pas pour moi-même? C'est exactement ce qu'il fallait dire par rapport à soi-même et ce que Lucifer n'a pas fait. Et c'est pour cela qu'il est devenu l'ennemi de Dieu. En s'aimant lui-même, il est devenu l'ennemi de Dieu, et donc, par un certain côté, mystiquement parlant, l'ennemi de lui-même, de ce qu'il est véritablement, de son original en Dieu. Il s'est vu très beau, et il s'est coupé de sa beauté, de la source de sa beauté. Qui donc? Qui? C'est le premier élément du nom de Saint-Michel. Ensuite, c'est le deuxième mot, c'est « comme ». Qui est comme Dieu? En réalité, nous avons déjà anticipé en disant que, en réalité, il n'y a aucune comparaison entre Dieu et sa créature. Qui est comme Dieu? Comme Dieu, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est comme Dieu. Si on fait abstraction, évidemment, des personnes en Dieu, mais nous parlons de Dieu par rapport à la Trinité, à la création. Maintenant, il se trouve qu'une fois qu'on a dit ça, et c'est une chose très importante que notre Père Saint-Augustin met bien en évidence dans son enseignement, il se trouve que qui est comme Dieu? Absolument personne. Maintenant, il se trouve que les gens qui ne sont rien, c'est-à-dire les créatures, les choses qui ne sont rien, les créatures humaines qui ne sont rien par rapport à Dieu, puisqu'il n'a pas d'égal, ne sont pas non plus des sortes de poussières qui sont perdues et qui sont tellement minables qu'elles ne peuvent pas être comparées à Dieu. Personne n'est semblable à Dieu, c'est pour ça que l'homme est l'image de Dieu. Il est fait à l'image de Dieu. Vous voyez? Donc, il s'agit d'une très grande humilité, nous y reviendrons dans un instant, il s'agit d'une très grande humilité. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Mais le Dieu par rapport auquel personne n'est comme lui, a fait des créatures humaine, mais aussi angélique, à son image. Alors, je ne sais pas exactement si on peut dire que les anges sont faits à l'image de Dieu. En tout cas, ils reflètent la gloire de Dieu. L'homme est fait à l'image de Dieu et les anges, mettons aussi grosso modo d'une certaine manière. L'homme et l'ange est fait à l'image de Dieu de telle sorte que, en quelque sorte, le qui du premier élément du nom de Saint-Michel est confirmé. Qui est comme Dieu? La créature humaine est faite à l'image de Dieu. Si elle s'aime elle-même, elle n'est plus comme Dieu. Or, Dieu n'a pas d'égal. Et la créature est l'image de Dieu. Il y a quelque chose de merveilleux quand on y pense. Il y a quelque chose de propre à nous anéantir dans l'humilité. Et il y a quelque chose de propre à nous faire prendre conscience de notre dignité, comme disent les pères de l'Église. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Et l'homme est fait à l'image de Dieu. La créature doit être à Dieu et non pas à elle-même. Voilà le sens de la comparaison comme. Et bien sûr, le dernier élément du nom de Saint-Michel, elle, Dieu, est un des noms de Dieu. C'est pour cela que tous les noms des anges se terminent par elle. C'est le nom elle de Dieu, elle, H-L si vous voulez, ou E-L, signifie Dieu, mais au sens de Dieu fort, le Dieu fort. Elle, c'est le Dieu d'Abraham, c'est un des premiers noms que Dieu a révélé. C'est bien sûr aussi je suis, c'est aussi le tétragramme, etc., bien entendu, mais c'est le nom du Dieu fort, c'est le Dieu puissant. Toutes nos forces viennent de Dieu, et c'est ce que l'on appelle la grâce. Et nous le voyons spécialement après la chute, lorsque nous voyons avec la grâce du médiateur, la grâce du Christ, la grâce nous est donnée, et nous qui sommes sans force, devenir forts par la force de celui qui est appelé le Dieu fort, elle, le Dieu fort. Donc, vous voyez, mes très chers frères, Saint Michel, archange, Saint Michael, archange, s'est anéanti, nous dit un auteur, il s'est anéanti autant que son adversaire s'est élevé. Et dans cet anéantissement, il a fondé le courage avec lequel il est allé au combat. L'humilité a été le fondement de sa force. En quelque sorte, si Lucifer, au moment où il s'est contemplé lui-même, a été déchu et est tombé et a perdu son nom pour trouver le nom de, obtenir le nom de Satan, Saint Michel, dont nous ne connaissons pas le nom avant sa fidélité, et nous ne devons pas chercher à le connaître, Saint Michel, en quelque sorte, a mérité de s'appeler Michael, dans la mesure où, voyant l'orgueil de Lucifer, il s'est humilié devant Dieu, il a même abdiqué son nom devant Dieu, méritant le grand nom glorieux de Michael. Saint Michel s'est anéanti autant que son adversaire s'est élevé. Vous comprenez quelle est la grandeur et la puissance et la gloire de Saint Michel. Il est l'exact opposé de Satan. Satan, c'est Lucifer déchu, tombé dans un état de misère pour l'éternité. Et Saint Michel, c'est un ange qui devait être confirmé dans la fidélité, qui l'a été et qui est devenu aujourd'hui le prince de la milice céleste, des milices célestes. Il a pris la place, en quelque sorte, de Lucifer, si l'on peut dire. Enfin, en tout cas, il est celui qui est le capitaine des bons anges. C'est pour cela que notre Seigneur, ou plutôt l'Église, dans l'Évangile qui est aujourd'hui, que nous avons lu aujourd'hui, notre Seigneur, l'Église nous fait lire non pas le passage de l'Évangile où nous voyons les apôtres chasser les démons et notre Seigneur et s'en réjouir devant notre Seigneur et leur Seigneur et notre Seigneur dire je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Nous ne lisons pas ça, nous lisons quelque chose qui peut paraître un peu peut-être plus approprié à la messe des anges gardiens, ce qui aura lieu dans quelques jours et qui sera il y aura le même Évangile, mais nous parlons, notre Seigneur nous parle de la toute petitesse de l'enfant. Parlez-nous de la grandeur et de la puissance des anges? Non. Ou plutôt si, notre Seigneur nous enseigne sur le secret qui a fait que les bons anges, et à commencer par Saint Michel Archange, que les bons anges ont été confirmés dans la béatitude. C'est qu'ils se sont anéantis autant que Lucifer, Satan, s'est exalté. Qui donc, nous disaient les apôtres à notre Seigneur, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Avant d'être confirmés dans la grâce, dans la fidélité, les anges étaient tous bons par défaut, et les futurs démons, les futurs bons anges, ils attendaient l'occasion de leur épreuve. Ils ont été éprouvés lorsque Lucifer a donné le mauvais exemple et est devenu Satan. Et comment sont-ils entrés positivement dans le royaume de Dieu, de telle sorte qu'ils sont aujourd'hui nos compagnons d'armes et d'une certaine manière même nos frères sous un certain rapport? C'est en s'anéantissant. Et c'est exactement ce que dit notre Seigneur. Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants. Nous pourrions dire beaucoup de choses sur ces petits-enfants. Il ne s'agit pas des petits-enfants naturels qui doivent eux aussi se convertir, même s'ils fournissent, nous disent les pères, un excellent point de comparaison, un excellent symbole pour la petitesse spirituelle. En réalité, nous dit Saint Jérôme par exemple, le petit-enfant dont il s'agit ici, dans l'absolu, c'est le Christ. C'est le Verbe éternel de Dieu, fait homme pour nous les hommes et pour notre salut. C'est lui qui s'est dépouillé de sa gloire, de sa grandeur, et qui s'est abaissé de telle sorte que nous puissions être élevés par son abaissement. Un saint écrit ceci, enseigne ceci, « Il n'y a pas de plus grande élévation qu'un profond abaissement dont Dieu est le but. » Si nous voulons être les compagnons des saints anges, des bons anges dans le ciel, nous devons faire comme eux, c'est-à-dire nous anéantir pour passer par la porte étroite qui mène au royaume de Dieu. Et comment s'anéantir? Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires pour se faire mépriser des hommes. Il s'agit de prendre conscience qu'il y a une seule cause à tous les malheurs et à toute la misère des démons, et c'est le fait qu'ils se sont regardés eux-mêmes avec complaisance. Et ce vice, dit Saint Grégoire, s'appelle l'orgueil. Nous en avons abondamment parlé déjà depuis longtemps, nous n'allons pas à chaque fois refaire le même sermon, mais vous voyez, mes très chers frères, il est tellement naturel pour nous d'être orgueilleux, il est tellement naturel d'avoir les degrés pour un chrétien, peut-être pour les degrés inférieurs de l'orgueil, qui est la vanité, la vaine gloire, une certaine vanité, une certaine complaisance envers nous-mêmes, une certaine satisfaction d'avoir progressé spirituellement. C'est encore de l'orgueil. Si nous étions satisfaits d'avoir progressé spirituellement et que Dieu nous fasse progresser spirituellement, notre attitude devrait être de la reconnaissance, merci mon Dieu, plutôt que de dire, ah ben, je m'aperçois que je suis nettement meilleur et d'une certaine manière, j'espère qu'on s'en aperçoit aussi parce que j'ai quand même pas fait des efforts pour que ça passe inaperçu. Vous voyez, ça, c'est tout à fait de l'orgueil. Comme les bons anges, mes très chers frères, nous devons comprendre que si nous ne nous convertissons pas et si nous ne devenons pas comme le petit enfant spirituel que nous voyons dans la crèche, alors nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Pas plus que les bons anges n'ont pu entrer dans le royaume des cieux sans s'anéantir autant que Satan s'est élevé. En revanche, nous savons que nous pouvons très facilement entrer dans l'orgueil, dans l'enfer, grâce à l'orgueil, puisque l'orgueil est la voie qui mène à l'enfer. Bienheureux les pauvres en esprit, dit notre Seigneur. Il n'y a pas de plus grande élévation qu'un profond abaissement dont Dieu est le but. La charité pour Dieu consiste donc à le chercher en toutes choses, à tout faire pour sa gloire, parce que par reconnaissance et parce que, dit Saint Jean dans l'Apocalypse, dans l'Épître, il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang. D'une certaine manière, nous sommes privilégiés par rapport aux bons anges, aux anges, parce que les anges, qui sont des créatures nettement supérieures aux hommes, n'ont eu qu'à être éprouvés une seule fois pour être pour l'éternité confirmés dans le bien ou dans le châtiment. Pour les hommes, ils ont été éprouvés une fois, ensuite ils ont chuté, mais comme ce ne sont que des hommes, d'une certaine manière, un composé d'âme et de corps, eh bien Dieu leur a donné une seconde chance, en quelque sorte, en envoyant son Fils pour nous sauver. Donc vous voyez, mes très chers frères, il y a quelque chose à apprendre ici, à retenir. C'est que, comme les bons anges, si nous nous fuyons nous-mêmes et que nous rapportons toute notre bonté, notre beauté, etc. à Dieu, lorsque nous sommes chrétiens, alors nous entrerons positivement dans le royaume de Dieu. Si nous nous tournons vers nous-mêmes, alors, en fait, nous sommes ingrats envers celui qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Dans le verset alléluiatique, nous disons ceci, c'est une prière à Saint Michel. Alléluia, Saint Michel, Archange, défendez-nous dans le combat, afin que nous ne périssions pas au jour du jugement redoutable. Comment, en pratique, imiter les saints anges pour être confirmés dans l'amour de Dieu et dans la fidélité, et mériter le ciel? Tout d'abord, souvenons-nous que les saints anges aiment Dieu d'un amour ardent. De sorte que Dieu doit en quelque sorte, et nous le voyons dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, les retenir parce qu'ils aimeraient se précipiter sur la terre pour détruire les méchants. Mais ce n'est pas encore le temps. Donc Dieu les retient. Dieu leur dit non, laissez le bon grain croître avec l'ivraie. Les anges, les saints anges donc, aiment Dieu d'un amour ardent. L'humilité étant le fondement de leur force, ils haïssent l'orgueil, de telle sorte que leur amour pour Dieu, si l'on le traduit en des termes humains, est une sorte d'animosité que nous, les hommes, devons avoir, non pas comme contre nous-mêmes en tant que créatures, mais contre le vieil homme qui est en nous. Bien souvent, il se trouve que nous ressentons les désirs du vieil homme en nous, et que cela nous fait de la peine, mais que faire? Nous ne nous haïssons pas suffisamment pour nous vaincre nous-mêmes. Et comment nous vaincre nous-mêmes? En étant orgueilleux. Bien souvent, nous haïssons le vieil homme en nous parce que le vieil homme nous fait faire des bêtises qui nous rendent ridicules. Il nous fait faire des bêtises, qui nous fait faire de la peine à ceux que nous aimons, et nous nous en voulons de leur avoir fait de la peine. Nous haïssons notre vieil homme parce qu'il nous rend beaucoup plus faibles et vulnérables que nous désirions être, et nous le haïssons parce que nous aimerions qu'il ne soit plus là pour pouvoir mieux nous enorgueillir de nous-mêmes. C'est encore le vieil homme. Vous voyez? Donc, les bons anges se sont détournés d'eux-mêmes. Nous-mêmes, nous devons nous détourner de nous-mêmes. Nous devons pas tant nous haïr que nous mépriser. Des fois, le terme est utilisé, des fois c'est un terme, des fois c'est l'autre. Ce n'est pas grave, ce sont des synonymes, ils désignent des réalités spirituelles différentes. Si nous devons nous haïr pour les mauvaises raisons, alors efforçons-nous plutôt de nous mépriser nous-mêmes. Je suis fier d'être un tel, c'est de l'orgueil. Comment faire pour me mépriser moi-même? En me concentrant sur le fait que par le baptême, je ne suis pas différent de ce sauveur dont je suis un membre du corps mystique, de ce fils de Dieu dans lequel je suis co-héritier de Dieu. Saint Bernard nous dit ceci, il ne faut pas croire que si Dieu a chassé du ciel les anges orgueilleux, il y élèvera des hommes superbes, c'est-à-dire orgueilleux. Si les hommes, comme disent certains théologiens, ont été créés pour remplacer tous ces millions d'anges déchus, comment croire que nous occuperons leur place si nous sommes comme eux en proie au vice de l'orgueil? Et spécialement à ces formes les plus subtiles qui sont, semble-t-il, compatibles avec la vie de bons chrétiens. Ainsi, continue à dire Saint Bernard, ainsi jugeons combien nous devons être humbles pour mériter de remplir la place de ceux que Dieu n'a rejetés que pour leur orgueil. L'humilité se vérifie, mes très chers frères, par l'obéissance. Et c'est ce qui caractérise aussi les saints anges. Les saints anges aiment tellement Dieu qu'ils voudraient se précipiter sur la terre pour tuer tous les méchants. Et pourtant, leur amour de Dieu est en quelque sorte ordonné par leur obéissance. Imaginez que les saints anges n'en fassent qu'à leur tête et par amour pour Dieu détruisent tous les méchants. Ils n'auraient pas accompli la volonté de Dieu. Donc, vous voyez, mes très chers frères, nous devons aimer Dieu, bien sûr, mais nous devons aimer Dieu d'une façon ordonnée. L'humilité se vérifie toujours par l'obéissance, sans quoi la charité n'est qu'une vaine, une vaine protestation, une pétition de principe, comme on dit. C'est pour cela, voyez-vous, et je suis obligé d'en parler aujourd'hui, parce que c'est la fête de Saint-Michel Archange, je suis obligé de parler un tout petit peu de ceux qui pratiquent des exorcismes, surtout l'exorcisme de Saint-Michel Archange, contre les anges apostats, et qui vont exorcisant à tour de bras, en public, en privé, récitant ces prières puissantes, en disant qu'ils combattent le combat de Dieu, ils combattent avec Saint-Michel Archange, ils tonitruent contre les démons qui sont spécialement virulents aujourd'hui, et c'est vrai qu'ils sont spécialement virulents aujourd'hui. Mais voyez-vous, mes très chers frères, il suffit de regarder dans leur globalité ce que deviennent et ce que sont les gens qui se livrent intensément à ce genre, ou même sporadiquement, à ce genre d'exercice, et nous apercevons qu'ils ne reçoivent que le salaire de ceux qui agissent sans mission, dans une mission, dans un exercice qui est particulièrement périlleux. Y a-t-il des démons, vous disent-ils? Oui. Faut-il les combattre? Oui, alors je les combats. Non. Non. Y a-t-il des ennemis qui font la guerre à notre pays? Oui. Faut-il les combattre? Oui, donc on envoie l'armée. Vous voyez, ils vont vous dire, oui, mais à quoi bon avoir les armes de l'Église? Si ce n'est pas pour les utiliser, Nos soldats, les soldats de l'armée de notre pays, ont des armes particulières. Ils ont, mettons, ils ont le FAMAS, ce fameux fusil d'assaut des soldats français. Est-ce que ça veut dire que tous les Français peuvent se saisir, aller dans un arsenal, prendre le FAMAS des soldats et aller tirer sur les ennemis? Non. Alors vous allez dire, oui, mais ça, ce sont des armes qui sont réservées aux soldats. C'est vrai qu'il y a des choses qui s'apparentent à des armes et qui sont en vente publique. Regardez une fronde, un lance-pierre, par exemple. Tout le monde peut en acheter. Vous allez dans un magasin pour de sport, que sais-je, vous en achetez. Ils vont vous dire, ça montre bien que tout le monde peut être armé. Oui, mais le problème, ce ne sont pas les mêmes armes. Et vous n'allez pas à la guerre avec des lance-pierres, à moins d'être David, évidemment. Mais vous n'allez pas à la guerre avec des lance-pierres alors qu'il faut utiliser des fusils d'assaut. Vous voyez? Donc il y a dans la logique de ces gens quelque chose d'illogique, dans le sens où d'un côté, ils reconnaissent qu'il y a un ordre dans l'Église qui s'appelle l'exorcisat ou l'ordre des exorcistes, et qui, d'une certaine manière, alors ils ne font pas forcément que des exorcismes, mais disons que d'une certaine manière, les prêtres qui sont missionnés par leur évêque tirent leur légitimité pour faire des exorcismes. Donc d'un côté, ils reconnaissent qu'il y a des armes et des états spéciaux dans l'Église pour faire des exorcismes, et d'un autre côté, ils rabaissent l'exorcisme à une arme commune qu'ils disent que tout chrétien peut utiliser. Donc, ou bien ceux qui sont qui ont le grade d'exorciste, sont liés d'une façon extrêmement précise par la discipline ecclésiastique pour ne pas utiliser leurs prérogatives sinon sur mission, et d'un autre côté, vous avez des gens qui n'ont pas reçu ce grade et qui peuvent exorciser à tout bras. À tour de bras. Donc, vous voyez, le résultat est double. C'est-à-dire que, premièrement, il minimise la puissance de l'exorcisme pour en faire quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et ensuite, et c'est là où je voulais en venir, il y a dans leur discours quelque chose qui s'apparente à de la revendication. Il n'y a pas que les prêtres qui peuvent exorciser, les chrétiens aussi. Et j'ai lu quelque part que l'exorcisme de Léon XIII de Saint-Michel Archange contre les anges apostats peut être dit par tout le monde. Il y a de la revendication. Même si c'était vrai, ce n'est pas le ton qu'il faut employer pour l'utiliser correctement. Et quand on dit utiliser correctement, je ne dis même pas pour chasser les démons, mais pour que les démons ne nous attaquent pas. Vous voyez? Quelqu'un qui utiliserait cet exorcisme hors de contexte, sans mission, sans nécessité, et sans que la nécessité dans laquelle il se trouve soit certifiée et validée par un prêtre ou par un évêque, cette personne serait un petit peu comme quelqu'un qui entrerait dans une pharmacie en disant tous les malades ont le droit de prendre des médicaments, donc je vais prendre des médicaments. Oui, mais vous n'êtes pas malade. Oui, mais je suis un homme et les malades sont des hommes, donc j'ai le droit de prendre des médicaments. Quelle logique? Quelle logique? Quelle logique! Et ce sont des gens qui, bien souvent, malheureusement, je pourrais en citer un certain nombre que je connais, ce sont des gens qui, malheureusement, très souvent, deviennent fous, littéralement fous. On va dire, c'est les démons qui les attaquent parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Est-ce que c'est la maladie qui attaque celui qui prend un médicament dont il n'a pas besoin par haine du médicament qu'il a pris? Soyons plus simples, disons simplement que quand on n'a pas besoin de médicaments, le médicament détraque la santé. C'est bien connu. Donc voyez, mes très chers frères, bien sûr que l'Église possède cette arme extrêmement efficace qu'est l'exorcisme. Il y en a de plusieurs catégories. Il y a des grands, des petits, il y a des prières de délivrance, des prières bon, bref, il y a toutes sortes de choses qui existent. Mais c'est l'Église elle-même, dans sa hiérarchie, qui doit nous les dispenser. Elle le fera généreusement si nous en avons besoin. Elle est comme un médecin généreux qui donne gratuitement les médicaments. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va aller faire des collections de médicaments alors qu'on n'est pas malade. Il donne gratuitement des médicaments, ce médecin, dans la mesure où nous sommes malades. Il est très mauvais de se livrer à faire des exorcismes. De faire des exorcismes sous prétexte que les démons accablent l'Église et on va aider l'Église. Qui vous a demandé d'aider l'Église? Si on vous l'avait demandé, on vous aurait donné des ordres, on vous aurait inclus dans la hiérarchie de ceux qui sont là, justement, pour veiller à l'entretien de l'Église, si j'ose dire. Vous voyez? Qui vous a demandé de faire des exorcismes? Personne. Et le démon pourrait très bien vous dire, je connais le Jésus que vous invoquez dans les exorcismes. Mais vous, je ne vous connais pas. Et c'est bien souvent ainsi que l'on s'aperçoit que, curieusement, les gens qui font des exorcismes à tour de bras, eh bien, tombent très profondément malades ou finissent dans des asiles psychiatriques ou alors, d'une façon plus fine, parfois, malheureusement, si je veux dire malheureusement pour les autres, eh bien, en quelque sorte, ne semblent pas ressentir d'effet négatif de ce qu'ils font, mais leur attitude est telle qu'ils excitent les laïcs, parce que ce sont souvent des laïcs, ils excitent les laïcs contre les prêtres en leur disant les exorcismes, surtout, enfin l'exorcisme de Saint de Léon XIII vous appartient à vous les laïcs, donc faites-le. Il vaudrait mieux qu'ils soient avec une camisole de force dans un asile, au moins là ils ne nuiraient à personne. Vous voyez, peut-être même ils pourraient être soignés s'ils étaient bien soignés. Vous voyez? Donc voyez, mes très chers frères, soyons très prudents. Saint Michel Archange, bien sûr, c'est lui que nous devons invoquer quand nous sommes tentés, spécialement par des tentations démoniaques, lorsque nous sommes attaqués par des démons, que Dieu nous garde des démons, quand nous ressentons des attaques des méchants, etc., qui pourraient faire des, que sais-je, des envoûtements, des imprécations, etc. C'est Saint Michel Archange, bien sûr, que nous devons invoquer. Mais, comme dit Saint Bernard quelque part, les saints anges ne protègent et n'aiment que ceux qui leur ressemblent. Et alors vous allez dire, on n'est pas des anges, qui leur ressemblent spirituellement, c'est-à-dire qui sont soumis à Dieu. Il y a beaucoup d'exorcistes jérovins qui font, et ça je ne parle même pas des catholiques, mais qui font des exorcismes au nom de Saint Michel, au nom de notre Seigneur, etc. Pensez-vous que ça plaise à Saint Michel d'être invoqué par quelqu'un qui n'est pas soumis à la Sainte Église catholique? La réponse est évidemment non. Donc voyez, mes très chers frères, bien sûr que nous devons avoir une très grande confiance dans les saints anges, et spécialement en Saint Michel, pour nous défendre dans les combats contre les démons. Mais nous ne devons pas nous comporter d'une façon qui soit orgueilleuse. Parce que sinon, nous combattons, nous, orgueilleux, le démon qui est un ange qui a chuté à cause de son orgueil. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit, si, en vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il nous faut, mes très chers frères, convertir la nature orgueilleuse en acte d'obéissance. C'est ainsi que nous nous insérerons dans l'ordre voulu par Dieu. C'est ainsi que, étant dans l'Église, à notre place, chacun à notre place, nous pourrons exercer cette triple caractéristique des saints anges qui nous a intéressés aujourd'hui, l'humilité, la charité et l'obéissance. C'est ainsi que nous serons en quelque sorte les frères des anges et que nous habiterons avec eux le royaume des cieux. Saint Michel Archange, défendez-nous dans les combats, nous dit le verset alléluiatique, non pas parce que nous allons combattre pour l'Église, etc., mais afin que nous ne périssions pas au jour du jugement redoutable. Défendez-nous dans les combats que nous avons à faire en nous-mêmes contre le désordre, afin que nous ne périssions pas au jour du jugement dernier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.